Salut
et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussite en IFSI et je t'emmène toutes les deux semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière.
Eh bien salut Alexandre, bienvenue dans le podcast.
Salut.
Je suis très content de t'avoir aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on va parler de la psychiatrie. C'est un sujet que tu maîtrises bien plus que moi et c'est un sujet qui a tendance à faire peur chez les étudiants. Je me souviens que moi le premier, avant mon premier stage en psychiatrie, j'avais peur, on me disait l'asile, les fous et... Du coup, j'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on dépoussière un petit peu ça avec ton expérience pour que tu nous parles de ton travail.
Carrément, carrément. Tu parles des étudiants, mais pareil, chez les professionnels de santé, tu as encore beaucoup d'infirmiers dans les services de soins généraux qui redoutent beaucoup les patients avec la maladie mentale, avec beaucoup de stéréotypes. Et on va essayer de déconstruire ça aujourd'hui.
Super. Alors, je te laisse te présenter.
Alors, du coup, moi, c'est Alexandre. J'ai 28 ans. Je suis infirmier depuis 6 ans. J'ai fait directement l'IFSI après le bac. Je suis rentré à l'IFSI sans vouloir forcément travailler en psychiatrie. J'étais plutôt orienté sur des soins plateau techniques, comme on appelle, réanimation ou USIC, des choses comme ça. Et puis, j'ai fait mon premier stage en psychiatrie en semestre 2. J'ai kiffé, vraiment kiffé. Du coup, dès la deuxième année, j'ai commencé à faire des vacations les week-ends dans des hôpitaux psychiatriques pour découvrir un petit peu les différents secteurs et pour pouvoir un petit peu me conforter dans cette possibilité-là de pouvoir plus tard travailler en psychiatrie adulte. Et en troisième année, du coup, j'ai fait un contrat d'allocation d'études avec l'hôpital dans lequel je travaille. Du coup, je travaille à Saint-Denis en région parisienne. Et du coup, j'étais diplômé, j'ai arrêté l'IFSI le vendredi et dès le lundi, j'ai commencé mon poste en psychiatrie, en service de psychiatrie adulte, donc en secteur fermé. Et je travaille dans la même unité depuis 6 ans du coup.
Donc toi, tu travailles dans une unité fermée. Déjà, qu'est-ce que c'est pour qu'on essaye d'amener la chose pour les auditeurs. Donc la psychiatrie, c'est un peu particulier parce que les personnes peuvent aller dans les soins psychiatriques de leur plein gré ou contre leur gré et dans différentes unités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça?
Une des grosses difficultés de la psychiatrie, c'est qu'on emploie beaucoup de termes et des fois on emploie plusieurs termes pour dire la même chose. En gros, tu vas avoir toute la terminologie UHTP, donc unité d'hospitalisation temps plein, service fermé, c'est un peu la même chose. Tu vas avoir les soins à l'hôpital et tu vas avoir les soins en ambulatoire. Il faut savoir que la psychiatrie, dans la plupart des cas, c'est plutôt des pathologies chroniques, donc qui vont nécessiter du coup des soins en ambulatoire. Une fois que la pathologie elle est stabilisée, les patients vont pouvoir rentrer chez eux et il va y avoir un suivi au long cours. Donc il va y avoir vraiment la phase aiguë qui va être traitée à l'hôpital, soit dans un secteur fermé où on va prendre en charge des patients en soins sous contrainte, je vais y revenir un petit peu plus tard, soit des secteurs ouverts où là, il y aura plutôt des patients en soins libres. Et ensuite, une fois que la pathologie est stabilisée, les patients vont pouvoir rentrer chez eux et du coup, là, ce sera plutôt des soins en ambulatoire dans des structures qu'on appelle extra-hospitalières. Tu vas avoir le CMP, centre médico-psychologique, des unités du coup, des unités qui sont ouvertes du lundi au vendredi, 9h-17h, avec psychiatre, psychologue, assistante sociale, infirmier. Des structures comme l'HDJ, hôpital de jour, comme le CATTP, le centre d'activité thérapeutique à temps partiel, où là, du coup, les patients vont pouvoir venir, pareil, du lundi au vendredi, 9h-17h, pour faire des activités à type de médiation cognitive, à type de activité occupationnelle ou l'HDJ où les patients vont pouvoir venir toute la journée, manger, prendre leur traitement le midi et avoir des activités, différentes activités avec les infirmiers du coup de l'extra-hospitalier. C'est vraiment des boulots assez différents et souvent les étudiants, quand ils font des stages en psychiatrie, ils peuvent être des fois envoyés quand ils ont des stages de 10 semaines, 5 semaines sur l'intra, donc à l'hôpital, et 5 semaines sur l'extra, et ils peuvent nous dire souvent que c'est pas du tout la même chose. Et effectivement, c'est pas du tout le même travail, c'est les mêmes patients, mais la pathologie, la prise en charge de la pathologie n'est pas du tout la même et c'est pas du tout les mêmes missions qu'on nous demande entre un infirmier qui travaille à l'hôpital et un infirmier qui travaille en dehors de l'hôpital, en extra-hospitalier. Et puis tu vas avoir aussi toutes les structures publiques. Donc en psychiatrie, le secteur public, c'est quand même ce qui est prédominant, mais tu as aussi le secteur privé avec toutes les cliniques privées qui vont prendre en charge plutôt les patients en subaigu, c'est-à-dire juste après la phase aiguë pour un peu consolider les troubles avant le retour à domicile. Donc tu peux avoir aussi des étudiants qui sont envoyés en clinique, où là, c'est pas des structures qui sont sectorisées, parce qu'il faut savoir qu'une des grandes spécificités de la psychiatrie, c'est que ce sont des soins qui sont sectorisés, c'est-à-dire qu'on est hospitalisé dans tel ou tel secteur en fonction de son lieu d'habitation. C'est vraiment spécifique à la psychiatrie. dans le secteur dans lequel tu travailles, tu vas recevoir toujours les patients qui habitent dans tel lieu d'habitation. Donc un secteur, c'est souvent plusieurs villes. C'est normalement pas plus de 120 000 habitants. Donc en région parisienne, par exemple, un secteur, ça va être composé de une ou deux communes. Mais par exemple, des secteurs en province, ça peut être composé de 30 ou 40 communes. En gros, il ne faut pas que ça atteigne plus de 120 000 personnes. Ça, c'est pour la psychiatrie adulte, pour la psychiatrie enfant. Donc psychiatrie enfant, pédopsychiatrie, c'est pour toutes les populations qui ont moins de 15 ans et 3 mois. Et psychiatrie adulte, c'est pour toutes les populations de plus de 15 ans et 3 mois. Pour la psychiatrie, la pédopsychiatrie, du coup, c'est le même mode de fonctionnement, c'est aussi sectorisé. Donc, on est hospitalisé en fonction de son lieu d'habitation. Alors, qu'est-ce que ça permet ça? Ça permet déjà de rapprocher les patients et leurs familles de leur lieu d'habitation. Et c'est pour pouvoir promouvoir un peu plus les soins en ambulatoire, c'est-à-dire que les CMP vont se trouver directement implantés dans la ville, là où habitent les patients. Et donc, du coup, en fait, c'est à proximité. Et surtout aussi, il va y avoir une équipe de référence, c'est-à-dire que les patients vont avoir comme interlocuteur toujours les mêmes professionnels, même si c'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup plus de turnover dans les équipes. Mais c'est vrai que ce qui faisait la force de la psychiatrie, c'est que tu pouvais avoir des professionnels qui étaient sur le même secteur depuis 20-30 ans. Et donc du coup, il y a une réelle référence au niveau soignant pour les patients. La psychiatrie, c'est aussi un secteur spécifique pour un autre domaine, c'est les soins sous contrainte. Ça, en France, ça n'existe qu'en psychiatrie où tu peux contraindre un patient à être hospitalisé et à prendre des traitements contre son gré. Dans tous les services, les patients sont hospitalisés en soins libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir leur médecin, ils peuvent choisir leur hôpital, ils peuvent choisir les traitements qu'on leur administre ou pas. Tu peux te casser une jambe, tu peux avoir la tuberculose, tu peux avoir le Covid. Si tu décides de ne pas te faire soigner, tu peux ne pas te faire soigner. Personne, l'État ne pourra pas te contraindre à te faire soigner. La psychiatrie, la santé mentale, ça a une spécificité déjà par rapport à son histoire, puisque du coup, une histoire ancienne avec les asiles et du coup, toutes les lois de soins sous contrainte la première loi date de 1830, donc c'est assez ancien. La dernière loi, c'est la loi de 2013, du coup, qui régit les soins sous contrainte. Et tu as plusieurs types de soins sous contrainte. Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers et les soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État. Et ça va être en fonction de l'état clinique du patient. Si le patient fait un trouble du comportement sur la voie publique et qu'il est attrapé par les flics ou qu'il est attrapé par les pompiers, là, du coup, il va souvent y avoir un arrêté du maire ou un arrêté du préfet qui demande l'hospitalisation sous contrainte du patient. Le patient va donc, du coup, être hospitalisé sous la demande du représentant de l'État, qui est souvent le préfet. Si la famille, par exemple, voit une dégradation dans l'état du patient, la famille ou l'entourage proche, ils peuvent demander l'hospitalisation du patient à la demande d'un tiers. Et donc, du coup, c'est l'entourage proche, le médecin traitant ou la famille qui va demander, du coup, l'hospitalisation sous contrainte du patient. Sachant qu'il faut toujours qu'il y ait des certificats médicaux qui soient faits par un urgentiste et par un psychiatre pour du coup confirmer la mesure. Et tu auras après des certificats qui seront faits, des évaluations à 24 heures, 72 heures, 7 jours. Et ensuite, tu as le patient qui devra être auditionné par le juge de la liberté et de la détention, le JLD, au bout de 12 jours d'hospitalisation sous contrainte. Tout ça dans le but d'éviter des hospitalisations abusives. Mais effectivement, du coup, tu peux du coup recevoir toute une population qui va être dans les secteurs fermés en soins sous contrainte et donc du coup qui seront dans ce qu'on appelle l'obligation de soins ou qui, s'ils refusent les traitements par voie orale, tu pourras être toi en tant qu'infirmier, tu devras être dans l'obligation de lui administrer le traitement. Et si c'est pas par voie orale, ce sera du coup par voie injectable et souvent par voie intramusculaire.
Si je résume, on a trois façons globales un patient d'être hospitalisé en psychiatrie, soit un soin libre, donc dans lequel lui il va décider de lui-même d'être hospitalisé, à la demande d'un tiers, donc c'est un proche du patient qui va demander l'hospitalisation pour son proche, ou alors un représentant de l'État qui va demander une hospitalisation.
Et aux urgences, donc c'est souvent aux urgences que les patients sont mis sous contrainte, aux urgences il y a vraiment trois règles à respecter pour pouvoir mettre un patient sous contrainte. La première, enfin c'est pas des règles mais c'est une nécessité. Pour pouvoir mettre un patient sous contrainte, il faut qu'il y ait la présence de troubles mentaux. Donc ça, c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait l'impossibilité de consentir aux soins. C'est-à-dire que le patient n'est pas capable, de par sa pathologie qui est en phase aiguë, de pouvoir dire « oui, je suis malade, oui, j'ai besoin de traitement, j'ai besoin d'être à l'hôpital ». Et la troisième règle qui est primordiale, c'est l'urgence. Il faut qu'il y ait un risque pour le patient ou pour autrui. Tu peux avoir des patients qui délirent, qui ne veulent pas être hospitalisés ou qui ne veulent pas être soignés, mais s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas de risque hétéro ou auto-agressif, et ben les patients ils sont pas hospitalisés puis ils vivent normalement. Voilà, donc c'est souvent risque suicidaire élevé où tu vas hospitaliser sous contrainte, c'est les patients très délirants ou les patients qui sont dans des épisodes maniaques qui, du coup, de par la phase très aiguë de leur pathologie, peuvent se mettre en danger ou mettre en danger les autres.
Maintenant qu'on a vu un peu comment ces patients sont amenés à être hospitalisés dans ton secteur ou dans tous les secteurs de psychiatrie, est-ce que tu peux un peu qu'on puisse expliquer quelles sont les différentes pathologies qu'on peut côtoyer pour que l'auditeur comprenne un peu plus pourquoi ces patients parfois nécessitent d'être hospitalisés sous leurs contraintes et puissent comprendre un peu quels sont les types de pathologies qu'on peut rencontrer en psychiatrie.
Alors quand les étudiants ils viennent en stage, souvent je leur dis il y a trois gros types de pathologies qu'on prend en charge. En tout cas, c'est bien que tu précises en unité d'hospitalisation à temps complet, en unité fermée, parce que c'est pas du tout les mêmes types de patients, je vais y revenir juste après. Tu as trois gros types de pathologies. Les troubles schizophréniques, les troubles bipolaires et les troubles dépressifs. Ça, c'est les trois gros types de pathologies qu'on va prendre en charge. Mais il y a aussi d'autres types de pathologies qui, des fois, n'ont rien à voir avec la psychiatrie. On peut avoir les troubles neurodéveloppementaux qui peuvent être pris en charge en secteur de psychiatrie parce que, en fait, c'est pas du tout de la psychiatrie. Ça va être un trouble au niveau... durant l'enfance, il va y avoir, du coup, un mauvais développement du cerveau pour X ou Y raison. Et du coup, ça va amener le patient à avoir plus ou moins des troubles du comportement. Et du coup, on peut prendre en charge ce type de population dans nos services de psychiatrie. Pas parce que c'est une pathologie psychiatrique à proprement parler, mais plutôt parce que les troubles du comportement que ça engendre ont besoin d'une prise en charge psychiatrique. Par exemple, on prenait en charge dans notre service un patient qui a un syndrome de Lennox-Gastaut. C'est une pathologie épileptique résistante qui se déclare souvent entre 6 mois et 3 ans. C'est une pathologie qui est pharmacorésistante, donc il faut plusieurs lignes de traitement anti-épileptique pour stabiliser les troubles. Et du coup, c'était un patient qui avait du coup un retard mental et qui du coup avait des troubles du comportement à type hétéro-agressif, auto-agressif, qui vivait en maison d'accueil spécialisée. Et la maison d'accueil spécialisée, au vu des troubles du comportement grandissant et ingérable dans leur unité, ont été obligés de nous l'adresser pour qu'on puisse le prendre en charge avec les médicaments et notamment les antipsychotiques pour pouvoir en fait un petit peu amender, donc faire baisser un petit peu les troubles du comportement, histoire qu'ils puissent en fait vivre dans une institution normalement et avant du coup on l'a stabilisé et on a pu le renvoyer du coup en maison d'accueil spécialisée. Donc des fois c'est pas du tout des pathologies psychiatriques. Il y a la pathologie du Lennox-Gastaut, mais il y a aussi la pathologie, le syndrome de Dravet, qui est aussi une pathologie épileptique. On a un patient, par exemple, qui a aussi ce syndrome de Dravet. Pareil, une épilepsie pharmacorésistante qui se déclare quand le patient est enfant, entre 6 mois et 3 ans. Et en fait, quand cette pathologie se déclare là, il y a du coup une stagnation au niveau des acquis. Donc, il y a un retard mental, il y a un retard des acquis moteurs, etc., etc. Et donc, du coup, forcément, il y a des troubles du jugement, il y a des troubles des impulsions. Donc, quand le patient, il veut quelque chose, il va le prendre. Ou quand tu vas le frustrer, il peut être amené à être hétéro ou auto-agressif. Et donc, du coup, avec les traitements médicamenteux qu'on utilise en psychiatrie, on arrive, du coup, à un petit peu à amender, à faire baisser toutes ces impulsions, ces troubles du comportement. Donc, tu peux avoir, voilà, des pathologies qui ont rien à voir avec la psychiatrie, mais que tu peux prendre en charge en psychiatrie. Et aussi, par exemple, les troubles neurocognitifs. On a des patients avec des pathologies démentielles qu'on peut recevoir aussi en service de psychiatrie parce qu'ils présentent des troubles du comportement dus à leur pathologie démentielle. Et donc, du coup, il va falloir que nous, on puisse arriver à faire baisser ces troubles du comportement pour qu'ils puissent retourner soit dans leur lieu, dans leur domicile, soit en EHPAD ou en institution. Et donc, on a eu beaucoup là ces derniers temps. Par exemple, on a pris en charge une patiente qui a une chorée de Huntington. Voilà, qui est une pathologie neurodégénérative qui n'a rien à voir avec de la psychiatrie, mais les troubles du comportement fait qu'on a dû l'hospitaliser en psychiatrie. Et puis, on a eu beaucoup, là, cet été, de patients qui ont eu des leucoencéphalopathies vasculaires, c'est-à-dire des tout petits vaisseaux qui se bouchent au niveau du cerveau et qui va du coup faire mourir toute la substance blanche que le vaisseau devait vasculariser. Et du coup, ces petites zones de cerveau qui vont être mortes vont du coup engendrer des troubles du comportement. Ou en tout cas, on avait un patient qui était arrivé 70 ans, qu'on nous avait présenté comme un épisode maniaque parce qu'il avait dépensé énormément d'argent, qui sortait, qui dormait plus du tout la nuit, qui sortait, qui était en errance. Qui avait distribué tout son argent à tous ses voisins, qui était très désinhibé, etc. Pas connu de la psychiatrie, donc déjà 70 ans, pas connu de la psychiatrie, il faut se poser des questions, puisque la psychiatrie, c'est quand même des pathologies du sujet jeune, hein, c'est souvent entre 20 et 35 ans. Quand ça arrive un peu plus tard, il faut se poser des questions. Et finalement, on l'avait pris en charge, le scanner cérébral aux urgences, c'était normal. Et finalement, avec l'IRM cérébral, qu'on a pu demander en seconde intention, on s'est rendu compte du coup que c'était une leucoencéphalopathie vasculaire, qui est une pathologie du coup, bah, pareil, un peu neurodégénérative, puisque du coup, on a des cellules nerveuses qui vont mourir. Et du coup, ce patient-là, on a pu le réorienter ensuite en service de neurologie. Et du coup, en tant qu'infirmier en psychiatrie, il y a aussi toute la prise en charge des comorbidités. Donc, comorbidité, c'est toutes les pathologies qui vont s'associer à la pathologie principale. Et notamment en psychiatrie, on a beaucoup de patients qui ont des comorbidités addictives, et notamment tout ce qui va être lié à l'alcool, au tabac, au cannabis. Donc, il faut savoir prendre en charge tous les risques liés au syndrome de sevrage alcoolique, par exemple, donc tout ce qui va être crise convulsive en sevrage alcoolique ou délirium tremens, pouvoir évaluer, qui est des échelles, comme l'échelle de Cushman, par exemple, mais aussi toutes les prises en charge des patients avec consommateurs de THC, de cannabis, de tabac, et qui sont motivés à pouvoir réduire, parce que du coup, le problème, c'est que ce genre de substances psychoactives vont venir aggraver les troubles que peuvent présenter les patients. Donc, de pouvoir les réduire, des fois, bah, ça va améliorer la qualité de vie du patient, mais aussi améliorer sa stabilisation. Et puis, il y a aussi toutes les comorbidités somatiques. On a des patients, souvent, en psychiatrie, qui sont dans des situations précaires, qui n'ont pas forcément de médecin généraliste et qui arrivent, et en fait, au moment de leur décompensation psychotique, on peut se rendre compte bah, finalement qu'il y a un diabète en plus ou qu'il y a une hypertension artérielle. On a beaucoup de patients qui sont hypertendus. Il faut savoir que les populations de personnes du coup, qui souffrent de pathologies mentales ont souvent une espérance de vie diminuée de 10 à 15 ans par rapport à la population générale. C'est énorme. Et du coup, il faut aussi pouvoir prendre en charge correctement ce type de pathologie. Donc, on est extrêmement vigilant sur tout ce qui va être diabète, hypertension artérielle, et donc du coup souvent on peut mettre en place des traitements anti-hypertenseurs lors du séjour en psychiatrie et du coup de devoir aussi faire une éducation thérapeutique sur ce genre de traitement.
Tout à l'heure tu disais que à tes étudiants tu leur précises qu'il y a en général trois grosses pathologies, donc tu parlais de la bipolarité, de la schizophrénie et du syndrome dépressif.
Ouais.
Est-ce que en étant assez succinct, même si c'est compliqué de te demander ça, est-ce que tu peux essayer de résumer pour nos auditeurs un petit peu ce qu'est la schizophrénie, la bipolarité et le syndrome dépressif?
Alors, les troubles schizophréniques, c'est assez hétérogène, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que des fois, la pathologie mentale, déjà, je vais faire un petit bref rappel de comment est-ce qu'on diagnostique une pathologie mentale, c'est super important. La pathologie mentale, déjà, le diagnostic en psychiatrie, c'est un diagnostic d'élimination, c'est pour ça que tous nos patients, avant d'être hospitalisés, il faut qu'ils passent par les urgences, parce que quand on a un patient qui arrive avec un tableau psychiatrique, il faut être sûr que ce n'est pas une cause organique ou une cause toxique. On a pas mal de pathologies somatiques qui peuvent donner des tableaux psychiatriques. Une tumeur cérébrale, ça peut donner des hallucinations. Une dysthyroïdie, donc hyper ou hypothyroïdie, ça peut donner un syndrome dépressif ou un syndrome plutôt maniaque. Donc il faut doser la TSH dans le sang. Une confusion, tu peux avoir une personne âgée de 80 ans qui arrive au box aux urgences, qui est complètement confuse, qui dit n'importe quoi, donc elle est désorganisée, elle est complètement délirante, elle essaye de taper les pompiers. Et en fait, tu te rends compte bah, que finalement, c'est pas de la psychiatrie. Mais souvent, on pourrait se dire, en voyant un patient avec ce tableau-là, bah, c'est de la psychiatrie. Mais en fait, c'est de la confusion. Et donc, du coup, en fait, soit il a un globe vésical, une déshydratation, une dénutrition, une hypoglycémie, une constipation, soit c'est iatrogénique. Et si tu règles pas ce problème-là, et ben du coup, là, tu règles pas le problème de confusion. Et donc, du coup, il faut être sûr que c'est pas un problème qui va être somatique, un problème qui va être iatrogénique, un problème qui va être toxique, avant de dire que c'est de la psychiatrie. Donc c'est vraiment un diagnostic où tu élimines toutes les causes somatiques, toxiques, iatrogéniques, avant de dire que c'est de la psychiatrie. Donc c'est pour ça que nos patients, ils vont souvent, surtout sur un premier épisode, un scanner cérébral, donc il faut qu'ils aient une imagerie cérébrale. Souvent l'imagerie cérébrale de choix, c'est quand même le scanner cérébral, puisque c'est quand même l'examen qui est disponible tout de suite maintenant, et où il n'y a pas trop d'attente. Mais après, souvent, il faudra faire un IRM cérébral en service pour voir un peu mieux la structure cérébrale. Un bilan sanguin. Tu peux faire un EEG après en service parce que il y a certains types d'épilepsie, notamment les épilepsies partielles temporales qui peuvent donner des hallucinations. Donc il faut être sûr que c'est pas une cause somatique. Et par exemple, une épilepsie temporale qui va provoquer des hallucinations, tu vas pas traiter ça par des antipsychotiques, mais tu vas traiter ça par des antiépileptiques. C'est pas du tout la même prise en charge. Donc déjà, le diagnostic d'élimination, il est primordial. Ensuite, en psychiatrie, le diagnostic, c'est un diagnostic qui est clinique. C'est assez frustrant et c'est assez difficile pour nous professionnels, mais aussi pour les étudiants, parce que finalement, tu diagnostiques pas une pathologie grâce à un bilan sanguin, grâce à une imagerie, à une radio ou des choses comme ça. C'est vrai que le diagnostic de diabète, par exemple, t'as plein de signes cliniques, mais c'est surtout un diagnostic biologique. Tu fais une prise de sang au patient, tu fais deux prises de sang à un patient à deux moments différents, il a à chaque fois à jeun plus de 1,26 g par litre de sucre dans le sang, bah c'est bon, il est diabétique. Point barre. T'as un patient qui se fait fracture du col du fémur, tu fais une radio du bassin, etc. Tu vois la fracture du col du fémur, fracture du col du fémur, Garden, je sais pas combien, voilà. Tu connais peut-être mieux que moi, sûrement mieux que moi. Mais voilà, le diagnostic, c'est un diagnostic d'imagerie. Le diagnostic en psychiatrie, c'est un diagnostic qui est clinique. Clinique, c'est quoi? C'est observer le patient et l'interroger. Tu peux pas diagnostiquer une schizophrénie, un trouble bipolaire ou un trouble dépressif grâce à une prise de sang ou grâce à une imagerie cérébrale, scanner ou IRM. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant et un petit peu difficile à comprendre. Moi, ce que j'aime bien dire aux étudiants, c'est une phrase, c'est un petit dicton qu'on dit en médecine, c'est on ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche que ce qu'on connaît. Si tu connais pas les signes à interroger ou à observer, tu vas rien chercher, et si tu cherches rien, tu vas rien trouver. Et c'est souvent très frustrant du coup, parce que vu que le diagnostic n'est que clinique, et bien, il faut bien connaître la sémiologie. Et la sémiologie, c'est tous les termes qu'on emploie en psychiatrie qui sont un peu des termes des fois barbares, genre aboulie, anédonie, apragmatisme, etc. qui sont des termes qu'on emploie des fois que en psychiatrie. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir poser un diagnostic. C'est les signes et les symptômes du patient qui vont faire des syndromes et les syndromes qui vont faire des troubles. Mais tout ça, tu vas l'avoir grâce à l'observation du patient. L'observation, c'est les aides-soignants, les infirmiers qui vont le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi l'interrogatoire qui va notamment se faire durant les entretiens psychiatriques qui vont durer 10 à 15 minutes. Et c'est pour ça que tous les matins, tu as souvent du lundi au vendredi des grands staffs le matin où tous les professionnels de santé vont se réunir et on va parler de tous les patients un par un parce que tout le monde aura quelque chose à dire du patient, tout le monde aura repéré quelque chose du patient et les infirmiers, les aides-soignants auront vu le patient durant le repas, durant la nuit, durant les soins d'hygiène. Le psychiatre aura vu le patient durant un entretien bien cadré. L'ergothérapeute l'aura vu durant une activité, donc il pourra parler plutôt de la praxie, de l'activité en groupe, etc. Donc tout le monde a quelque chose à apporter du patient et tout ça, ça va permettre de pouvoir faire une hypothèse diagnostique. Donc les troubles schizophréniques, tu vas surtout avoir les trois grands syndromes qui sont le syndrome délirant, le syndrome dissociatif. Donc le syndrome dissociatif, c'est la désorganisation. Désorganisation de la pensée, c'est une rupture de l'état psychique du patient. C'est très compliqué à comprendre et souvent, il va falloir passer par les services de psychiatrie pour un petit peu voir à quoi ça correspond. Mais en gros, c'est les patients qui vont avoir une incohérence du fil de la pensée. Tu leur poses une question, ils vont te répondre quelque chose de complètement incohérent, complètement à côté. Ça peut être aussi la désorganisation idéo-affective. Le patient, il va te dire « ma mère est morte » avec un grand sourire. C'est-à-dire qu'entre l'idée qui véhicule quelque chose de triste et les affects qui sont joyeux sur son visage, il y a une discordance. Donc ça, c'est la désorganisation. Et puis, tu vas avoir le syndrome négatif avec, du coup, le patient qui va être clinophile, donc qui va rester au lit toute la journée, qui va être apragmatique, aboulique, donc il va pas se laver, il va falloir aller le stimuler. Donc, en psychiatrie, les soins d'hygiène, la compétence 3, c'est beaucoup de stimulation. D'accord? C'est pas de l'aide totale ou de l'aide partielle, mais c'est beaucoup de stimulation. Il va falloir un petit peu driver les patients, leur dire, bon, bah là, il faut que tu prennes la serviette, il faut que tu prennes le gel douche, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Sinon, s'il n'y a pas de stimulation, nous, un peu, les soignants, on est un petit peu l'allumette qui va allumer le feu, quoi. Et du coup, il va falloir stimuler pour que les patients se mettent en action. Mais pas parce qu'ils sont feignants ou qu'ils sont sales. C'est parce qu'il y a des symptômes bien précis, la boulie, l'apragmatisme, qui font partie du syndrome négatif, qui font que ces patients-là, si tu les stimules pas, ils sont capables de ne pas se laver pendant plusieurs semaines. Ça, c'est vraiment le trépied de la schizophrénie. Syndrome délirant, syndrome dissociatif, syndrome négatif. Et en fonction, en gros, de la prédominance d'un syndrome sur les autres, tu vas avoir plutôt un type de schizophrénie. Par exemple, la schizophrénie paranoïde, c'est le syndrome délirant qui va être prédominant sur les deux autres. La schizophrénie hébéphrénique, ça sera plutôt le syndrome dissociatif, le syndrome de désorganisation qui va être prédominant sur les autres. Et les schizophrénies déficitaires, ça sera plutôt le syndrome négatif qui sera prédominant sur les autres. C'est pour ça que tu as plusieurs types de schizophrénie et qu'on parle de troubles schizophréniques avec un S. Les troubles bipolaires, ça va être l'alternance entre des épisodes maniaques et des épisodes dépressifs. Alors ça aussi, c'est difficile en psychiatrie, c'est que tu emploies des termes qui dans la société veulent dire des choses, mais en psychiatrie, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Maniaque dans la société, c'est la personne qui aime bien que tout soit rangé, tout soit en ordre, etc. Maniaque en psychiatrie, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'inverse de la dépression. Le patient qui est déprimé, il est ralenti sur le plan psychomoteur, il est triste, il dort très peu, il est fatigué, il veut pas manger. Le patient qui est maniaque, il est très jovial, il est très euphorique, il bouge beaucoup, il réfléchit beaucoup, il parle beaucoup, un peu comme moi là actuellement. Il dort très très peu, mais il est pas fatigué du tout. Il a plein de projets multiples, projets grandioses, etc. Donc vraiment, le syndrome maniaque, c'est vraiment l'inverse de la dépression. Et du coup, les troubles bipolaires, c'est vraiment l'alternance entre les deux. Mais il faut savoir que c'est pas l'alternance dans une même journée. L'épisode dépressif va durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Ensuite, le patient, il va être dans un épisode euthymique, donc en fait l'humeur qui va être normale, un peu comme vous et moi, et qui va durer pareil, plusieurs semaines, plusieurs mois, et ensuite le patient va pouvoir avoir un épisode maniaque qui va durer aussi plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc du coup, le traitement de référence chez ces patients-là, c'est des traitements thymorégulateurs, donc des traitements régulateurs de l'humeur qui vont faire en sorte que le patient soit avec une humeur la plus neutre possible. Et puis les troubles dépressifs, bah, comme son nom l'indique, c'est la succession d'épisodes dépressifs durant la vie du sujet. Alors, du coup, ça, c'est les pathologies qu'on rencontre beaucoup à l'hôpital psychiatrique. Mais du coup, tu as des pathologies que, par exemple, moi, je ne prends pas du tout en charge. Par exemple, les troubles du spectre autistique. Il y a très très peu de patients qu'on prend en charge et qui ont ce type de pathologie là. On en a eu un, moi en 6 ans j'en ai eu un seul qu'on a pris en charge parce que c'était son père qui le prenait en charge à la maison. Son père a une pathologie cancéreuse et donc du coup il a été hospitalisé. Le fils il pouvait pas rester à domicile tout seul avec la belle-mère, il avait trop de troubles du comportement et du coup on l'a pris en charge en service de psychiatrie le temps que le père soit soigné. Les pathologies anxieuses, donc tout ce qui va être les pathologies anxieuses, tout ce qui va être trouble obsessionnel compulsif, trouble phobique, trouble anxieux généralisé, aussi les pathologies du stress post-traumatique. Tout ça, c'est des pathologies qui vont plutôt être prises en charge par des psychiatres libérales ou qui vont plutôt être prises en charge en ambulatoire par les CMP, etc. C'est des pathologies qu'on rencontre très très peu en milieu hospitalier. Dans les seuls rares cas où tu peux rencontrer des pathologies anxieuses, c'est dans les cas où les patients, à force d'être anxieux, à force d'être phobique ou d'avoir des troubles obsessionnels compulsifs, ils commencent à déprimer. Et le principal risque dans la dépression, c'est le risque suicidaire. C'est un risque suicidaire assez élevé. Tu peux potentiellement prendre en charge ces patients en milieu hospitalier, mais c'est vraiment très rare. Et puis toutes les pathologies du trouble du comportement alimentaire, donc les boulimies, les anorexies mentales. Attention, petite distinction entre anorexie, le symptôme, et anorexie mentale, la pathologie. C'est vraiment pas du tout la même chose. Et donc, du coup, ça, c'est des pathologies qui vont plutôt être prises en charge dans des milieux spécialisés. Tu as vraiment des unités spécialisées dans les TCA, dans les troubles du comportement alimentaire, où là, vraiment, tu as des professionnels qui sont vraiment formés à ce type de pathologie. Toi, ça fait 6 ans que je travaille en psychiatrie, j'en ai jamais vu dans mon service, et je suis pas du tout formé à la prise en charge de ce type de population, parce que c'est vraiment une prise en charge vraiment très spécifique. Donc, vraiment, des fois, tu peux avoir des pathologies du champ de la santé mentale complètement différentes en fonction de ton lieu de travail.
L'épisode étant un petit peu plus long que d'habitude, t'as entendu du coup la première partie, parce qu'on a fait le choix de le diviser en 2 parties. Donc je te donne rendez-vous dans 15 jours pour entendre la partie 2.
Si t'es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.